Eh bien oui, Jésus, le Sauveur du monde, est né dans une famille. Il a vécu une vie de famille, il a passé 30 ans en famille. Il n'est pas tombé du ciel tout fait, comme Athéna, selon la mythologie grecque, qui est sortie, adulte et armée de pied en cap, de la tête de Zeus. Non, Jésus n'est pas surgi non plus de nulle part. Il est né d'une femme, comme dit saint Paul. C'est d'ailleurs le seul passage de ces 13 lettres où il parle de Marie, et il dit l'essentiel. Le mystère de Marie, c'est d'avoir été la mère du Fils de Dieu. La mère qui donne au Verbe éternel son humanité, lui permettant d'entrer dans notre condition humaine, plénière, sans tricher, de la conception à la mort. Vous direz, oui, mais c'est une conception virginale, miraculeuse, tout à fait spéciale. Oui, mais c'est quand même un commencement d'existence humainement. Et Jésus a donc connu tout cela. Mais dans la pensée de Dieu, Marie n'est pas une mère célibataire. Cela peut arriver dans la vie des gens, dans la vie de nos familles. Ce n'est pas un drame. Ça peut même être parfois un beau chemin de courage et d'amour. Mais c'est vrai que c'est pas idéal. Et encore moins quand, par les lois sur la PMA, on va se mettre d'accord pour qu'il y ait des enfants qui n'ont pas de père. Bon, d'ailleurs, pour Jésus, la place de Joseph est très importante. Alors que, au point de départ, devant le mystère de cette conception miraculeuse, Joseph a d'abord la tentation de disparaître. Mais c'est Dieu qui va le confirmer dans son projet de mariage. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et il le confirme aussi dans sa paternité qui n'est pas génitale, mais qui est réelle, familiale, sociale. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donner le nom le huitième jour, c'est le geste et la parole par laquelle le Père reconnaît cet enfant comme son fils. Alors notons au passage la virginité de Marie et de Joseph, de l'un et de l'autre. Ils n'auront pas à vivre d'autre fécondité que cette fécondité plénière, immense, qui est d'être père et mère en ce monde du Verbe éternel, du Fils de Dieu. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils auront envie d'avoir un enfant supplémentaire, ce serait disproportionné, décalé par rapport à leur vocation spécifique et à l'événement unique au monde, unique dans toute l'histoire du monde, dont ils sont non seulement les témoins, mais les acteurs. Alors, ajoutons que la Sainte Famille, c'est la toute première Église. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'Église ? L'Église, c'est une communion autour du Christ. L'Église naît là où deux ou trois sont réunis en son nom, et il est là au milieu d'eux. Réunis autour du Christ pour l'accueillir, pour le servir, et pour le mettre au monde au sens fort, pour l'offrir au monde, pour le donner au monde. Ça, c'est vraiment le mystère de l'Église, la vocation de l'Église, et nous la reconnaissons déjà dans la famille de Nazareth, comme une anticipation du mystère même de l'Église. Cela pour nous une conséquence importante. Au fond, toute famille chrétienne est par elle-même ecclésiale. Le Concile dit une ecclésiola, une petite église. On dit parfois une église domestique, c'est une très mauvaise traduction du latin domestica, ça veut dire maisonnée. C'est l'église à la maison, la maison-église. Que nos maisons soient une petite église. Donc d'un côté, toute famille chrétienne vivante est ecclésiale. Inversement, quand l'église est vivante, elle est familiale. Et chaque communauté chrétienne dans l'église doit devenir de plus en plus une famille. L'église n'est pas un syndicat d'initiative. L'église n'est pas une administration religieuse. Elle est un mystère de communion autour du Christ. Et cette communion dans le Christ crée entre nous un lien fraternel fort et profond. D'ailleurs, cette réalité nuptiale et familiale traverse toute la Bible. Elle est inaugurale dans le livre de la Genèse, le couple initial. Le récit dit, Dieu les créa, homme et femme. Et Dieu ajoute, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dira encore, multipliez-vous et dominez la terre. Donc c'est le projet créateur de Dieu par rapport à l'humanité, c'est un projet nuptial et familial. C'est, comme dit Jean-Paul II, le sacrement initial. parce que ça nous dit quelque chose de Dieu, il le crée à son image, c'est-à-dire qu'il crée, il les crée dans une communion et pour une communion. Et donc, ça, on retrouve ça au début de la Bible, dans la Genèse, et on retrouvera ça dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, avec les noces de l'agneau. Nous contemplons son épouse, sa bien-aimée, la cité sainte, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et qui est de toute beauté, où les larmes et les ténèbres sont terminées, et c'est le temps de la parfaite communion dans la gloire de Dieu. C'est notre vocation à tous, toute l'humanité a vocation de devenir Église bien-aimée du Seigneur et d'entrer une communion définitive avec lui, l'agneau immolé et ressuscité. Cela donc, le mystère de la famille, éclairé par la famille de Nazareth, et en même temps, ce mystère de la famille de Nazareth qui éclaire notre vie de famille, c'est tellement important, c'est tellement fondamental, c'est tellement vital, que c'est bien sûr attaqué directement par les puissances des ténèbres, la puissance destructrice de Satan. Satan qui est le diviseur, le diabolos, qui ne supporte pas la communion, qui est l'anticommunion. Et donc, il va cibler de façon spécifique cette vocation de communion qui est la vocation du couple et de la famille. D'ailleurs, la dernière des voyantes de Fatima, quelque temps avant sa mort, sœur Lucie, a dit au cardinal Caffara que le dernier combat de Satan, ce serait le combat contre la famille, contre l'amour et la famille. Satan a semé partout dans l'humanité la révolution politique, la révolution culturelle, et encore la révolution sociétale, la révolution familiale. C'est une œuvre de destruction. Et nous n'avons pas appris au sérieux la déclaration du ministre Taubira à l'époque de la manifestation pour tous et du mariage pour tous. Elle disait, c'est un changement de civilisation. En disant cela, elle n'est pas n'importe quoi. Elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. C'est l'antithèse de ce que Jean-Paul II souhaitait et annonçait, une civilisation de la vie et de l'amour. Nous sommes entrés dans une civilisation d'un amour sans fécondité et d'une fécondité sans amour. Alors je tourne cette page un peu sur l'évolution du monde et de nos sociétés et je reviens à notre vie familiale, comment la petite église de Nazareth éclaire nos églises familiales et nos communautés. Beaucoup de choses à dire, mais quelques points que je souligne. Premièrement, l'Église est à l'écoute de son Seigneur. La famille chrétienne est à l'écoute du Seigneur, des appels du Seigneur, des événements qui jalonnent notre vie et que nous avons à discerner et à comprendre comme des signes de Dieu, quelle est la parole de Dieu qui nous est dite dans ces événements, positifs ou négatifs. C'est un chemin de discernement aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Un discernement ensemble, nous nous aidons les uns les autres, l'époux et l'épouse s'aident, les parents et les enfants s'aident mutuellement à reconnaître l'appel du Seigneur, à discerner les chemins du Seigneur dans la vie du couple et de la famille. Et tout cela dans un climat d'obéissance. Vous avez noté comment l'ange dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte, ensuite prends l'enfant et sa mère et reviens en Israël. Et chaque fois, Joseph fait ce que l'ange lui a dit. C'est une obéissance magnifique. Et il prend autorité, Dieu lui donne autorité sur Marie et sur Jésus. Pourtant, Jésus est plus saint que Marie et Marie est plus sainte que Joseph, mais c'est Joseph qui a reçu ce ministère de diriger la famille du Seigneur. Et donc sans complexe, mais sous l'autorité du Seigneur lui-même, il exerce sa mission. Un deuxième point, c'est la famille de Nazareth et notre famille et nos communautés. C'est des lieux de prière. Il y a une liturgie familiale. Il ne peut pas y avoir de famille chrétienne si on a une liturgie chrétienne qu'a inventée dans chaque famille. C'est pas forcément la même chose partout. Mais il y a un minimum à assurer. Et si possible, je ne fais pas seulement une prière entre deux portes, rapidement, vite fait. C'est un temps de prière. C'est un temps où nous nous tournons ensemble vers le Seigneur. Je sais bien que quand les enfants ont grandi, c'est un peu plus difficile. Mais au moins les jours de fête ou quand il y a un événement particulier, venez, prions ensemble le Seigneur. Ça, c'est tout à fait important, cette prière ensemble. Beaucoup de couples sont fragilisés et cassent parce qu'ils n'ont pas mis en place ce lien spirituel, ce lien d'âme. Pas seulement un lien de sensibilité, un lien de cœur affectif, c'est un lien profond un lien spirituel dans le Seigneur. Et cette prière nous évangélise les uns les autres. Troisièmement, j'admire dans la famille de Nazareth comment ces trois personnes sont au service les unes des autres. Je ne suis pas là pour me servir des autres, mais je suis là pour les servir. Et servir en particulier, alors bien sûr rendre service au long de la vie quotidienne à beaucoup d'occasions, mais surtout ce grand service, ce beau service qui est de servir la vocation de l'autre. Comme Joseph, Dieu lui demande d'être au service de la vocation de Marie, car il doit être cette présence masculine qui la couvre de son ombre au nom du Seigneur. Et puis, Joseph et Marie ensemble sont au service de Jésus. Jésus ne peut pas naître, ne peut pas grandir, ne peut pas entrer dans la société d'Israël et dans la vie du monde sans cette médiation paternelle et maternelle de Joseph et Marie. C'est très beau de voir comment ma vocation, c'est aussi d'être serviteur de la vocation des autres. Et la famille est un lieu où naît et se manifeste, se discerne la vocation de chacun. Enfin, j'aime souligner que dans la famille de Nazareth, les portes sont ouvertes aux proches et aux lointains. Ça commence dès la naissance de Jésus, la venue des bergers. 2 ans plus tard, la venue des mages dans la maison. Il y a, au fond, à Bethléem comme à Nazareth, il y a des courants d'air. La famille n'est pas un refuge, un ghetto dans lequel on s'abrite des malheurs du monde. Elle est au contraire une pause, une halte, une auberge, une bonne auberge où on peut recevoir les voyageurs, les chercheurs de Dieu, les âmes en peine, les cœurs blessés qui cherchent un lieu et non, qui les accueille, qui les comprenne, qui les console et qui les encourage. Eh bien, bon travail, chers amis.